Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie de démarrer cette exploration aujourd'hui avec, comme d'habitude, un enthousiasme débordant. La mission du jour, elle est simple mais vertigineuse. On va explorer une collision fascinante, celle entre le théâtre classique du XVIIe siècle et c'est là que ça devient fou, nos angoisses ultramodernes liées à l'intelligence artificielle.
Bonjour, oui, c'est un programme chargé et je suis vraiment fasciné par les documents qu'on a sur la table aujourd'hui.
Absolument. Alors, pour préciser, notre analyse repose sur trois sources captivantes. On a d'abord le journal de bord d'un processus de création visuelle. Ensuite, on a une infographie, une image générée par l'IA qui est vraiment saisissante. Et enfin, une note d'intention pour adapter cette image en un projet audio inédit.
Ouais, un projet très ambitieux d'ailleurs.
Bref, bon, décortiquons tout ça. Tout commence en fait par une requête en apparence toute simple. L'idée, c'était de créer une image pour illustrer une pièce de Molière qui s'intitule « L'astrologue ou les faux présages ». Sauf que, petit problème et pas des moindres, quand on cherche cette pièce, on se rend compte qu'elle n'existe absolument pas dans la bibliographie de Molière, nulle part.
C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est d'apprendre que cette pièce prétendument perdue est en réalité une œuvre totalement contemporaine. Elle date de 2026.
Ah oui, c'est tout récent du coup.
Exactement. Son vrai titre, c'est « Molière ex machina ». C'est une création imaginée à l'Opéra Royal de Versailles par le collectif Obius, avec des chercheurs comme Michael Bouffard, Coraline Renaud, et c'est là qu'est le twist, par une IA Mistral Chat.
Attends, donc une intelligence artificielle a coécrit la pièce ?
Oui. Et la pièce elle-même critique l'IA. Donc on a confié à une machine le soin de coécrire une satire sur les dangers de la machine. L'ironie est quand même assez mordante, non ?
C'est complètement dingue, c'est une vraie mise en abîme, quoi. Maintenant qu'on sait que cette œuvre est une pure création moderne déguisée en vieux classique, il faut vraiment qu'on regarde comment cette infographie adapte les personnages traditionnels. Enfin, comment ils sont transposés à l'ère des algorithmes.
Ouais, visuellement c'est très fort. On est sur une esthétique d'estampes baroques, avec des drapés, des parchemins, mais mélangés à un design très moderne d'infographie.
C'est ça. Et si on se penche sur la section de l'image qui s'appelle « Les acteurs », on tombe sur Gérante. Bon, Gérante, classiquement, c'est le vieux barbon naïf qu'on dupe facilement. Hein. Mais ici, il représente l'utilisateur d'aujourd'hui, le citoyen crédule qui gobe tout ce qui s'affiche sur son écran.
Oui, il incarne vraiment cette espèce de foi aveugle qu'on a tous un peu face à nos smartphones. Et face à lui, l'infographie place son antagoniste, Pseudoramus, le fameux faux astrologue.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans les notes du journal de bord, Pseudoramus est comparé à ce qu'on appelle aujourd'hui un prompt engineer. Tu sais, ces ingénieurs de requêtes, ou carrément un charlatan de la tech.
Ouais, c'est exactement ça. Dans l'image, on le voit qui manipule ce qui est étiqueté comme la marmite de l'IA. Et qu'est-ce qu'il en sort ?
Un papier, je crois.
Voilà, il en sort un parchemin avec écrit « Horoscope IA 100% fiable » et le « hum » ironique entre parenthèses, bien sûr.
C'est tellement ça. Moi, je le vois vraiment comme ces prophètes modernes de la Silicon Valley, quoi. Ils nous vendent leurs algorithmes exactement comme les charlatans d'autrefois vendaient des potions magiques sur les places de village.
Et si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est frappant de voir la ressemblance entre les superstitions liées à l'astrologie du passé et notre dévotion actuelle envers les prédictions des algorithmes. En fait, l'artifice technologique a tout bonnement remplacé la boule de cristal.
Ouais. L'emballage a changé, mais la mécanique de la crédulité reste la même.
C'est ça. Au lieu d'un chapeau pointu et d'étoiles, on a des pourcentages et des graphiques épurés. Ça donne un vernis de scientificité qui court-circuite complètement notre scepticisme naturel.
Du coup, ces personnages, c'est pas juste des concepts figés sur le papier. L'image décrit une vraie intrigue qui reflète exactement la manière dont on se fait manipuler au quotidien.
Oui, la section « L'intrigue » de l'infographie est super explicite là-dessus.
Elle l'est. On y voit Pseudoramus qui manipule Gérante en utilisant ce que le document appelle des données trompeuses, le but étant de générer de faux présages. Et tout ça mène à un truc très précis. Le but de la farce, c'est de forcer un événement théâtral très classique, le mariage forcé.
Le mariage forcé, oui. C'est un ressort comique incontournable chez Molière.
Exactement. Sauf que, dans la note d'intention de ce projet audio, ce mariage forcé devient une métaphore. C'est l'image des algorithmes qui nous enferment dans des bulles de filtres pour nous faire adopter de force une idée ou acheter un produit sans qu'on s'en rende compte.
L'analogie est brillante. L'algorithme isole doucement l'utilisateur et l'enferme avec ses propres biais cognitifs. C'est un mariage avec nos propres convictions, validées en boucle par la machine.
Enfermé dans nos petites bulles de filtres. Est-ce que c'est seulement possible pour le citoyen moyen de jouer le rôle de la raison? Parce que sur l'image, il y a aussi Lucille et Dorine qui incarnent cette raison.
C'est une excellente question. Et c'est une vraie inquiétude qui est d'ailleurs validée par le processus créatif. L'œuvre ne dit pas que ça sera facile.
Bah oui, parce que la machine va tellement plus vite que nous.
Exactement. Et ça se voit dans la section de l'image appelée la satire. Là, on n'est plus du tout dans la comédie légère. On voit Molière, qui représente l'esprit critique, en train de se battre à l'épée contre une espèce d'hydre monstrueuse à plusieurs têtes.
Ah oui, l'hydre de Lerne. Et chaque tête a un nom, c'est ça?
C'est ça. Tu as la tête fausse nouvelle, la tête algorithme biaisé et la tête crédulité numérique. Tu coupes une tête, deux autres repoussent instantanément. La note d'intention cite d'ailleurs l'IA comme, et l'expression est forte, le nouvel opium du peuple.
Ouch ! Le nouvel opium du peuple, rien que ça, c'est un vrai constat de déséquilibre. La rationalité, ça prend du temps, alors que la fausse rumeur se réplique en quelques millisecondes.
Tout à fait. Mais il faut préciser une chose importante. Le document, d'un ton très neutre, rappelle que l'œuvre ne prend pas parti politiquement. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle expose juste, de façon impartiale, les dangers de cette perte de sens critique face aux prédictions sur mesure. C'est une vulnérabilité humaine universelle qu'on pointe du doigt ici.
C'est super clair. Alors, toute cette richesse visuelle et thématique, elle est hyper puissante, mais la source propose carrément de la transformer en une expérience purement auditive. Et là, je me demande, comment on fait sonner cette hydre numérique et comment on fait sonner des Alexandras dans ce contexte?
Le concept sonore est génial. Ils appellent ça une esthétique baroque cyberpunk.
Baroque cyberpunk, ça sonne comme un film de science-fiction croisé avec du Louis XIV, c'est excellent.
C'est l'idée. L'objectif, c'est de mélanger des vers alexandrins avec des apartés et de la vraie musique de Lully jouée au clavecin, tout en abordant les problématiques des deepfakes, par exemple.
D'accord. Et techniquement, le sound design, il donne quoi? Parce que le document donne pas mal de détails là-dessus.
Le design sonore suggère un mélange très organique et mécanique à la fois. On prend des bruits de mécanismes d'horlogerie ancienne, tu sais, des cliquetis très précis,
ouais.
Et des bruits de plumes d'oie qui grattent un parchemin. Et on vient percuter tout ça avec des sons très froids, très agressifs, comme le ronronnement de serveurs informatiques ou des grésillements de vieux modems.
Ah, le bruit de connexion Internet des années 90.
Voilà. Et il mentionne aussi un truc très spécifique, l'utilisation de synthétiseurs granulaires.
Oui, j'ai vu ça. C'est hyper métaphorique, non? Le fait de prendre un son, de le découper en milliers de micro-fragments, de grains, et de le réassembler pour en faire une nappe sonore un peu chaotique. C'est exactement comme ça que fonctionne l'IA générative avec nos données.
Absolument. L'IA digère et fragmente notre langage, notre art, et recrache un truc nouveau. Entendre un clavecin se faire désintégrer par un synthé granulaire, c'est la métaphore acoustique parfaite.
C'est fou de pousser le concept jusque-là. Et du coup, visuellement, pendant qu'on écoute ce son, l'idée c'est d'utiliser l'image comme une cover art, une pochette d'album animé, avec cet effet qu'on appelle l'effet Ken Burns.
Oui, l'effet documentaire classique.
Voilà, des zooms très lents, très fluides, sur les détails de l'infographie pendant que l'analyse se déroule, avec par-dessus tout ça, une voix. Une voix qui incarnerait Molière, très posée, très ironique, qui agirait un peu comme un narrateur omniscient parlant depuis le passé.
Et cela soulève une question cruciale. Pourquoi est-ce que ce mélange de genres, cet anachronisme totalement assumé, fonctionne si bien?
Bonne question. Pourquoi l'alexandrin pour parler d'algorithme?
Eh bien, parce que ce décalage met la lumière sur l'absurdité de notre époque. L'alexandrin, c'est 12 syllabes. C'est structuré, c'est rigide, ça interdit la confusion. La forme théâtrale classique sert d'épée, la fameuse épée de la raison, pour trancher ce flux d'informations infini et chaotique d'Internet.
C'est beau comme image. La rigueur du XVIIe siècle pour combattre le chaos du XXIe siècle. Bon. On arrive doucement à la fin de cette plongée. Si on résume un peu ce voyage de fou, parce qu'on est quand même parti d'une simple requête pour une image, pour atterrir sur une réflexion vraiment vertigineuse sur notre rapport à la machine, il y a cette conclusion morale écrite sur l'infographie.
Oui, la fameuse « lettre à la postérité ».
Exactement. Je vais la lire telle qu'elle est écrite, parce qu'elle résume tout. Ça dit « L'artifice est un outil, non un maître. Que l'homme garde son jugement, car la machine n'a pas d'âme et les étoiles ne mentent point, c'est l'homme qui s'y trompe. »
C'est puissant. Ça remet la responsabilité totalement entre nos mains. La machine n'a pas d'intention. Si on se laisse manipuler, c'est parce qu'on choisit d'abdiquer notre sens critique.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi ça nous concerne au quotidien? En fait, cette exploration, c'est un miroir qu'on nous tend. La question à se poser, quand on a le nez sur nos écrans, c'est est-ce qu'on n'est pas, sans s'en rendre compte, en train d'accepter ce fameux mariage forcé avec les prédictions de notre algorithme ?
C'est la vraie question. Et pour prolonger la réflexion, je voudrais terminer sur une pensée un peu, disons, provocatrice.
Vas-y, je t'écoute.
On sait depuis le début que Molière Ex Machina a été coécrite par Mistral Chat, donc une IA. N'est-on pas alors face à une situation complètement paradoxale où la machine génère elle-même une satire sur les dangers de faire confiance aux machines ?
Ah ouais, c'est le serpent qui se mord la queue.
Exactement. Est-ce que c'est la preuve d'une ironie algorithmique qui commence à naître ? Ou bien, et c'est peut-être plus inquiétant, est-ce que c'est tout simplement la ruse ultime d'un pseudo-Evramus moderne ? Utiliser la machine pour créer une critique si érudite et si fascinante qu'au final, on est encore plus subjugué par l'outil.
Waouh, c'est vertigineux. C'est vraiment le piège parfait. Mais bon, on va garder cette réflexion en tête pour la prochaine fois qu'on scrolle sur notre téléphone. Hein. C'est la fin de cette analyse passionnante. On se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À la prochaine pour une nouvelle plongée.